Radio Kapi.
Oh Kapi.
Le journal Billy Van Lutumba.
Bintou Keïta, chef de la MONUSCO devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce mardi, met l'accent sur les élections à venir d'ici 2023 en RDC. Elle plaide pour que tous les acteurs congolais ainsi que la MONUSCO balisent la voie pour un bon scrutin. Vous l'écoutez tout de suite en ouverture de cette édition. Ce sont presque les pleurs des plus ou moins 300 orphelins de Kassindi Loubiria que vous entendrez dans ce journal. En tout cas, après le massacre de leurs parents, Kabou Omaliro, responsable de l'orphelinat, verse ses larmes pour une assistance en faveur de ses pauvres enfants. Pembe Lepolin, président du conseil d'administration de l'Association des réseaux des usagers de l'eau potable, parle en fin de ce journal de l'accès à cette denrée au nécessaire dans la commune de Lancélé. Il est notre invité ce soir. Les informations de Radio Okapi, ce sont vos aspirations, vos désirs et souhaits que nous transmettons à qui des droits au jour le jour. Fidèles auditeurs, continuez à faire confiance. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. La RDC a désormais les yeux rivés sur les élections de 2023. Cette étape représente une étape cruciale dans l'avènement de la démocratie dans le pays et de la stabilisation des institutions. La déclaration est de la représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies en RDC. Madame Bintou Keïta l'a dit ce mardi lors de sa toute première intervention devant le Conseil de sécurité au cours de laquelle elle a présenté le rapport général du secrétaire général de l'ONU relatif aux activités de la MONUSCO. Selon la chef de la MONUSCO, le temps qui nous sépare de la date de la tenue des élections doit être mise en œuvre par le gouvernement de la RDC, la population et la MONUSCO pour aplanir les obstacles en vue de garantir la bonne tenue du scrutin. On écoute Madame Bintou Keïta dans cet extrait que nous propose Pelékipé Lamondo.
Le pays a déjà les yeux tournés vers les élections de 2023. Le processus électoral de 2023 représente une nouvelle étape critique dans le processus de transition démocratique, de consolidation institutionnelle et de stabilisation du pays. Après la passation pacifique du pouvoir entre le président Kabila et le président Tshisekedi en 2019 et le remaniement de la coalition au pouvoir au cours des trois derniers mois, cette échéance informe déjà les positionnements politiques, les propositions de réforme à l'agenda de la rentrée parlementaire et le débat public. Conformément à la volonté du président Tshisekedi, le premier ministre désigné, M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, m'a également indiqué que la préparation des élections de 2023 constitue l'une des priorités du gouvernement à venir. Les 33 prochains mois avant ces échéances électorales se présente ainsi devant nous comme une route que nous devons emprunter ensemble avec le gouvernement et la population congolaise en redoublant d'énergie et d'efficacité pour franchir les obstacles et relever les défis qui se présenteront à nous afin de poursuivre la consolidation démocratique du pays et de ses institutions et d'avancer vers la stabilisation de l'Est et les réformes nécessaires à cet effet.
Il est temps que l'Est, devenu un abattoir humain, soit totalement pacifié et cela dans l'urgence. C'est l'essentiel du mémo conjoint des femmes des sociétés civiles de l'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu, adressé hier au chef de l'État congolais et au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces femmes se disent exacerbées par les massacres de Beni ainsi que la situation sécuritaire qui prévaut à Djougou et Irumu dans la province de l'Ituri, ainsi que le haut plateau de Minembwe au Sud Kivu. Dans leur document remis lundi dernier au gouverneur de province du Nord Kivu, ces femmes recommande au chef de l'État de recourir aux forces militaires de l'Union africaine combinées à celles de la MONUSCO pour que la paix règne définitivement dans l'Est. Néné Bintou Iragi, vice-présidente de la coordination provinciale du Sud Kivu, dans cet extrait choisi par Denise Lukeso.
Nous nous sommes particulièrement inquiétés par rapport à ce qui se passe à Beni. Même si au Sud Kivu, nous avons les problèmes dans les hauts plateaux, nous avons les problèmes à Djougou, à Irumu, dans l'Ituri, mais la situation de Beni nous paraît plus préoccupante parce qu'on dirait que toute la République est attaquée à travers Beni. C'est pour cela que nous avons choisi de venir au Nord Kivu pour voir M. le gouverneur qui nous promet de transmettre notre mémo au chef de l'État et pour que nous puissions vraiment avoir la paix d'une manière définitive dans les trois provinces concernées. Parce que les images qui nous viennent vraiment de l'Est sont terrifiantes. Avec l'avènement de la nouvelle représentante du chef des Nations Unies qui a dit qu'elle va faire de la MONUSCO une force réactive, efficace et proactive, nous nous sommes dit c'est bien de collaborer avec la communauté internationale, mais nos cris d'abord doivent s'orienter envers le président de la République pour que notre armée soit valorisée, parce qu'on se rend compte qu'ils sont en train de combattre dans des conditions très difficiles.
Ces femmes demandent également à la MONUSCO d'exécuter son chapitre 7 chaque fois que les populations civiles sont menacées, notamment en appuyant les FRDC dans les combats contre les ennemis de la paix. En séjour à Kinshasa, la responsable de l'orphelinat Tukinge Mayatima sollicite la compassion des bonnes volontés afin d'assister 300 orphelins de Kassindi Lubiria dont les parents avaient été massacrés dans cette localité du territoire de Beni à la frontière avec l'Ouganda. Se confiant en Radio Okapi, Madame Kabou Omaliro affirme qu'après la construction du bâtiment qui abrite cet orphelinat par le gouverneur du Nord Kivu, elle manque de tout pour assurer la scolarité et les soins de santé de ces orphelins qui gardent des stigmates, des atrocités ayant emporté leurs parents. Elle est au micro de Pascal Massirika.
Là où je suis avec les orphelins, je suis dans une zone rouge, oubliée par les humanitaires. Avec les orphelins là-bas, ça ne va pas.
Vous encadrez combien d'orphelins?
300 orphelins de massacre. Et les enfants sont troublés parce qu'ils voient comme on a égorgé son père, sa mère. Les enfants ont des plaintes incurissables. Vraiment, c'est le message de détresse, le cri d'alarme. Les orphelins souffrent parce que les massacres continuent. Nous sommes déstabilisés. Mais les orphelins souffrent vraiment parce que nous sommes dans une zone rouge. Je lance le cri d'alarme à la première dame, Madame Denise Nyakere, et les églises ici à Kinshasa, les personnes de bonne volonté. À Beni, ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne suis pas sécurisée avec les enfants. Moi, je lance le message à Monsieur le Président de la République, la Première Dame, Madame Denise Nyakere, de venir en aide. Les enfants souffrent, il faut une école, un hôpital, parce qu'ils tombent malades chaque fois. Ils sont blessés, quand ils voient, on égorge son père. Ils sont blessés vraiment. Ils tombent malades chaque fois, il faut l'école.
Toujours dans ce journal, la même cause qui produit ses effets avec ses orphelins. Au Nord Kivu, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF fait 5 morts hier lundi dans le village Samboko Chanichani, à une vingtaine de kilomètres d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Selon la société civile d'Oicha qui livre l'information, il s'agit encore là d'un bilan provisoire que l'armée n'a toujours pas confirmé. Le récit de André Kitenge.
C'est dans la journée de lundi que ces hommes armés, identifiés comme des rebelles ADF, ont attaqué Masekoude dans le village de Samboko Chanichani. Ce village est situé à une vingtaine de kilomètres d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, à la frontière avec la province sœur de l'Ituri, indique la société civile locale. Philippe Paluku Bonane, président de la société civile d'Oicha, explique.
C'était vraiment le matin à partir de 9h. Ils sont entrés à Samboko Chanichani, là où on appelle Masekoude. Alors ils sont entrés là-bas. Le bilan, il y a jusque là au moins 5 personnes tuées, dont une femme. Il y a aussi autres 5 personnes qui sont portées disparues. Il y a aussi 2 blessés.
Contacté, le porte-parole des opérations Sokola 1 confirmait la nouvelle. Cependant, il n'avance aucun bilan jusque-là. Lieutenant Anthony Mwalouchei.
L'ennemi ADF a tenté de faire son incursion au village Chanichani, mais notre armée qui était aux alentours a dû venir au secours de sa population. Mais du côté perte en vie humaine, nous n'avons pas encore le bilan pour confirmer que ce soit du côté assaillant ou du côté armée ou population.
Notons que les casques bleus de la MONUSCO basés à Maïmoya ont apporté leur appui au FRDC pour repousser l'ennemi. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Une autre nouvelle macabre, 12 morts et une centaine de maisons brûlées, c'est le bilan des affrontements qui ont opposé lundi les habitants de Tetakalamba dans le territoire de Mweka au Benami Lombe dans le territoire de Demba dans la province du Kasaï. Cette information est livrée par le député provincial Gaston Piémé, questeur de l'Assemblée provinciale du Kasaï, et confirmée par les sources locales. Il invite les autorités politico-administratives à intervenir rapidement pour ramener la paix. Il appelle aussi les deux communautés à la cohabitation pacifique. On écoute le député provincial Gaston Piémé, joint par Alain Hirong.
Là, quand je vous parle, il y a une maison d'un sénateur qui a été saccagée, incendiée. Plus de 100 maisons qui ont été incendiées. Et pendant que je vous parle, là, le bilan fait état de 12 morts. Je vous dis 12 morts, des morts encore inutilement de plus. Je voudrais saisir vraiment cette opportunité pour vraiment inviter les autorités, tant au niveau national que provincial, de faire diligence pour vraiment intervenir et ramener la paix dans ce coin du territoire national. Voilà pourquoi j'interpelle le REPEM intérieur d'envoyer une équipe d'enquête pour vraiment mettre fin à cette situation qui nous ramène encore des morts de plus pour rien. Voilà, j'invite toutes les deux parties au calme et j'invite aussi les autorités à intervenir le plus tôt possible.
À Kinshasa, il est 18h10. Vous suivez Radio Okapi dans son journal vespéral. Les députés nationaux du Nord Kivu dénoncent des allégations attribuées au président de l'Assemblée nationale qui circulent dans les réseaux sociaux et leur demandent de quitter les groupes armés. Dans leur mise au point à la fin de la plénière d'hier lundi, les élus du Nord Kivu disent n'être impliqués ni de loin ni de près dans les tueries de la population dans l'est du pays. Ils invitent cependant le Parlement à prendre ses responsabilités en main en mettant en place une commission d'audit de tous les fonds mis à la disposition de l'armée pour éradiquer l'insécurité. Le porte-parole des députés du Nord Kivu, député Mwanza.
Il circule actuellement sur les réseaux sociaux des propos qu'on a attribués à l'honorable président Mbosso, demandant aux députés du Grand Kivu de quitter les groupes armés. C'est pourquoi, au nom de tous les députés de l'Est, je tiens à préciser que nous, députés nationaux, ne sommes impliqués ni de près ni de loin dans l'activisme des groupes armés. Au contraire, les élus que nous sommes avions depuis longtemps alerté toute l'opinion nationale ainsi que le gouvernement central sur l'urgence d'une intervention appropriée. C'est ainsi que des opérations militaires furent menées en plusieurs séquences, dont malheureusement les résultats sont peu reluisants à ce jour, à cause notamment des détournements de fonds mis à disposition des opérations, du trafic d'armes et munitions et autres trahisons de la part de quelques officiers affairistes, faits qui ont aggravé la situation. Il est temps que notre Chambre s'assume en toute urgence.
En réaction, le premier vice-président de l'Assemblée nationale estime que les propos du président Christophe Mboso Kodiapong ont été mal interprétés. Pour Jean-Marc Kabound, le président de l'Assemblée nationale a fait un appel pathétique à tous ceux des Congolais impliqués dans l'instabilité de la situation sécuritaire dans l'Est et qu'ils soient politiques, militaires ou de la société civile. Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, il n'y aura pas d'immunité pour tous ceux qui seront cités dans cette affaire au moment des interpellations. Jean-Marc Kabound est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons eu à nous entretenir avec plusieurs personnalités dans le cadre du bureau, bien entendu. Les versions que nous avons entendues, nous ne pouvons pas les mettre sur la place publique. Je ne peux pas vous dire ici ce qui nous a été rapporté par non seulement le service de renseignement congolais, mais aussi les pays occidentaux qui ont plus de moyens pour mener des investigations. Je crois que l'appel du président Mboso va dans un sens au-delà d'indexer un groupe d'individus. Si il aurait cité des députés, en tout cas, je crois que ce n'était pas ça son intention. Son intention était d'interpeller toute personne, acteur politique, acteur de la société civile, militaire, qui serait derrière tout ce qui se passe à l'Est, de se retirer. Et ça, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans tout ce qui se passe à l'Est du pays. Et alors, tout ce que nous disons, c'est que demain, lorsque les gens seront interpellés, votre bureau ne sera pas là pour protéger qui que ce soit.
Nouvelle venant du Kasaï oriental, rentrée parlementaire ce mardi 30 mars à l'Assemblée provinciale. 13 députés sur les 23 que compte actuellement l'Assemblée provinciale ont été présents à la cérémonie d'ouverture. Dans son discours, le président de l'organe délibérant a dressé le bilan des visites effectuées pendant les vacances parlementaires avec les députés provinciaux dans 4 entreprises, dont 2 entreprises minières de la province, dans les établissements scolaires, supérieurs et universitaires. Concernant cette session de mars, le président Yves Mwamba Kadima a fait savoir que le calendrier des matières à examiner sera établi par la conférence des présidents. Il est néanmoins revenu sur l'examen des arriérés des matières de la session de septembre dernier, non traitées suite à la tension politique et à la COVID-19. Le député provincial Yves Mwamba Kadima, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, s'exprime au micro de Esther Ndalafina.
La session qui s'ouvre aujourd'hui va examiner en dehors du calendrier des matières à établir incessamment par la conférence des présidents tous les arriérés des matières de la session de mars 2020 et celle de septembre 2020, notamment les propositions dédiées initiées par les députés provinciaux et envoyées respectivement à la commission mixte PAJ et sociaux culturels. Les rapports de la commission d'enquête parlementaire chargée de contrôler les ressources financières, matérielles et techniques de la province du 15 juillet 2015 au 15 juillet 2020, déclaré recevable au cours de la plénière du mercredi 28 octobre 2020, suspendu conformément à l'article 63 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale et la motion de défiance contre le gouverneur. Cette commission va encore se remettre à l'œuvre pour présenter les rapports pour adoption à cette session ainsi que les débats sur la motion de défiance.
Actualité internationale.
Tanzanie, la succession de John Magufuli s'est poursuivie mardi avec la nomination d'un nouveau vice-président après une période d'hommage marquée par une bousculade qui, selon un dernier bilan, a fait 45 morts le 21 mars. Le Parlement a validé son choix de nommer le ministre des Finances Philippe Mpango à la vice-présidence. Il prêtera serment ce mercredi. Après le décès le 17 mars dernier de John Magufuli, des problèmes cardiaques, conformément à la Constitution, la vice-présidente Samia Suluhu Hassan a pris sa succession, devenant la première femme à diriger la Tanzanie. Une enquête des Nations Unies conclut qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française au Mali en janvier a tué 19 civils réunis pour un mariage et non pas seulement des djihadistes comme l'a soutenu Paris jusqu'alors. Le ministère français des armées a réfuté mardi toute bavure au Mali et émis de nombreuses réserves sur cette enquête.
L'invité.
Notre invité est Pembele Paulin, président du conseil d'administration de l'association des réseaux des usagers de l'eau potable à Surep, la Joie Sikotra, localisée dans la commune de Lancélé. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, cette association constate que 40% seulement de la population de la commune urbano-rurale de Lancélé ont accès à l'eau potable. Monsieur Pembele s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Pembele Paulin, bonjour.
Bonjour.
Les habitants des Sélés que nous avons interrogés disent qu'ils ont des difficultés d'accès à une eau potable. Vous êtes un opérateur dans ce secteur. Quelle est votre réaction?
Évidemment, c'est vraiment vrai que la population de la commune de Lancélé éprouve beaucoup de difficultés pour avoir de l'eau potable. C'est comme cela que nous opérons dans ce domaine-là pour servir de l'eau à la population de Lancélé.
À quel taux estimez-vous la desserte en eau potable dans la commune de Lancélé?
Le taux environne au maximum de 40 à 49% de desserte en eau potable.
Et la population que vous desservez, vous pouvez l'estimer à combien?
Dans la commune de Lancélé, en général, je ne peux pas donner une précision là, mais dans mon quartier, le quartier Sikotra Locali, la population est au nombre de 29 870 habitants dans le quartier Sikotra.
De l'aéroport jusqu'à Lancélé, nous l'avons dit, les gens éprouvent beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Pour compenser ces déficits, les ASUREP ont implanté des forages à travers cette commune. Parlez-nous brièvement de cette initiative, M. Paulin.
Juste pour compenser à cette difficulté-là, il y a un enfant du pays qui s'est soucié de cela, qui a fait des études, comment est-ce qu'il peut compenser la desserte en eau potable dans la commune de Lancélé, et qui, par ses efforts intellectuels, est arrivé à réaliser un projet qui, financé par le bailleur, ont donné de l'argent afin de réaliser ce projet. Voilà qu'après la réalisation, nous sommes maintenant opérationnels. Nous distribuons de l'eau à toute la population de Lancélé.
Quel est l'impact ou même les bénéfices que la population tire sur l'implantation de vos forages ici à Lancélé?
D'antan, la population utiliser l'eau des rivières, l'eau des puits qui n'est pas creusée à une grande distance. Et maintenant qu'on a implanté des ASUREP dans la commune de Lancélé.
Des ASUREP, c'est quoi?
C'est une association de réseaux des usagers en eau potable. Et maintenant, la population utilise de l'eau qui est potable.
Il y a l'eau de forage, mais la population se plaint aussi de la qualité et même du prix de vente de vos services. Que répondez-vous?
Là, monsieur le journaliste, je peux répondre que la population ne peut pas s'en faire puisque notre eau est une eau qui a été étudiée dès le forage et jusqu'à maintenant, nous continuons à faire les tests de l'eau dans des grandes sociétés de la place, par exemple à INRB, à l'OCC.
Et j'ai appris que vous venez de faire
exactement
cette opération il n'y a pas longtemps.
Oui, il n'y a pas longtemps, il y a cela un mois que nous avons passé les tests pour étudier et analyser l'eau que nous desservons à notre
population. La qualité de l'eau.
La qualité, c'est impeccable. Notre eau est consommée consommable facilement. Donc, ça pose pas de problème dans la vie des habitants de l'Ancelle.
Et en ce qui concerne les prix?
Le prix est abordable. Vous savez que nous nous tournons toujours avec l'argent que nous prenons dans nos populations. Nous prenons cet argent-là pour acheter des pièces de rechange, le carburant, et nous payons nos enfants du quartier qui ont trouvé du travail dans cette association-là. C'est comme cela. Le prix est abordable.
Le prix est abordable. Un bidon, par exemple, coûte combien? De 25 litres?
Un bidon de 25 litres s'achète à 100 francs congolais.
M. Pembele, vous êtes président du conseil d'administration à Chirep La Joie, à Ginkgo
Sikotra
Locali. Est-ce que vous avez une idée sur le futur de ce projet? En d'autres termes, les perspectives d'avenir.
Les perspectives d'avenir, nous voulons que ce projet aille de l'avant et que toute la population des quartiers Sikotra-Locaï ait de l'eau, et qu'à partir de notre fonctionnement, nous aurons à créer beaucoup de choses que nous sommes en train de nous imaginer. Chercher à créer, par exemple, les écoles pour nos fils du quartier, chercher à créer même un dispensaire ou bien une polyclinique pour traiter les enfants du quartier. En fait, faire toutes choses qui concourent pour le bien des enfants du quartier Sikotra-Locaï.
Merci, Monsieur Pembele Paulin.
À vous, auditeurs de Radio Okapi, nous disons aussi merci pour avoir suivi ce journal préparé par Noéla Luzitu, Pelekipelamondo, Alain Irung, Billy Van Otumov l'a présenté. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 19h, local de Kinshasa.